Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
On se construit en tant qu'identité aussi bien avec du masculin qu'avec du féminin, mais on n'est que d'un seul sexe. Il y a un nouvel interdit, c'est l'appropriation du corps de l'autre, l'interdit de l'inceste, qui est une réalité aussi. Mais maintenant, le corps des autres leur appartient et eux, ils doivent protéger le leur.
Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense.
Ouais, ils doivent vivre un enfer.
Pourquoi tu m'as jamais aimé ?
T'aimer ? Mais qui a dit que je dois t'aimer ?
C'est qu'il s'agit de déconstruire l'existant pour créer du nouveau. Mmh. Et le nouveau, c'est la parentalité.
Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichou, psychologue clinicienne spécialisée en périnatalité. Je reçois, j'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents, des couples aussi, autour de toutes les questions qu'ils peuvent se poser sur leur parentalité, leur devenir parent. Ça peut aller lorsqu'ils s'interrogent sur leur désir d'enfant, aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer pendant la grossesse, aux questions d'infertilité, au parcours de PMA, et puis aussi autour de toutes les questions éducatives qu'ils peuvent se poser avec leurs enfants.
Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un deuxième épisode hors série sur le développement de l'enfant de 4 à 12 ans. Votre vie de famille est déjà bien chargée, vous cherchez à vous informer, mais vous n'avez pas forcément le temps, l'énergie ou l'envie de lire les ouvrages de Françoise Dolto et de ses contemporains. Cet épisode est fait pour vous. Avec Elisabeth Pilâtre-Jacquin, psychanalyste, nous allons aujourd'hui vous parler des étapes du développement de l'enfant de 4 à 12 ans, afin de vous aider à mieux comprendre ce qui se passe pour vos enfants en fonction de leur âge, avoir des repères pour discerner ce qui serait de l'ordre du normal quand tout va bien ou ce qui serait davantage de l'ordre du pathologique, qui nécessiterait alors un accompagnement spécifique. Et enfin, de vous aider à mieux les accompagner dans ces étapes charnières et parfois difficiles de leur développement. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Mathilde.
Lors du premier épisode, nous avons évoqué les différentes étapes que l'enfant doit franchir durant les 4 premières années de sa vie. On a parlé du stade oral, de la période du stade du miroir et puis du stade anal, la période où l'enfant acquiert la propreté. Nous allons maintenant poursuivre son développement et découvrir les étapes suivantes. Après cette première période de construction des bases de son identité, on avait utilisé cette image de la maison, de la maison interne, l'enfant continue de se développer et s'attaque à de nouveaux enjeux. Quels sont ces nouveaux enjeux entre 4 et 6 ans ?
Alors le premier de tous qui est caractérisé par la notion de complexe d'Œdipe, c'est la découverte de son identité sexuelle différente entre les garçons et les filles. Donc c'est vraiment cette première aventure. C'est-à-dire après avoir été mobilisé, sollicité par tous ses sens pour découvrir le monde, se l'approprier, ressentir le monde, tout d'un coup, il découvre qu'il a un sexe, le garçon et la fille ont des sensations et des visions de leur sexe différentes et c'est centré autour de ce sexe qui va aussi conditionner nouvelles relations avec l'environnement, le père, la mère, entre autres, et la fratrie. Ça devient le nouvel objet, le nouvel organe d'intérêt et de sensation.
Oui, en effet, on voit bien autour de 3-4 ans que les enfants développent cette curiosité par rapport à leur sexe, à celui de l'autre. On voit bien à l'école, dans les toilettes ouvertes, ils ont d'une certaine manière plaisir à découvrir, à regarder le corps de l'autre. Ils peuvent aussi poser ces questions de comment on fait les bébés. Ils s'observent beaucoup. Donc, une fois que l'enfant... intègre cette différence des sexes, qu'il y a un sexe féminin et un sexe masculin. Qu'est-ce qui va se passer pour lui ?
Alors, Justement, toute la période d'Œdipe, c'est la période où il commence à, l'intégration, c'est la sortie de l'Œdipe, c'est-à-dire vraiment arriver à accepter le fait qu'il n'est qu'un sexe, soit féminin, soit masculin, qui ne peut pas s'en servir en famille, ça sera pour plus tard. C'est-à-dire que tous ses organes étaient centrés sur le contact, la découverte, le lien avec les adultes. Il ne va plus pouvoir le faire avec le sexe, puisque c'est une autre destinée, un autre organe. Et donc, chez les enfants, l'objet d'amour absolu, c'est le corps et la psyché de la mère, déjà dans un premier temps. C'est-à-dire que pour l'enfant à cet âge-là, premier objet d'amour, exclusif et absolu, c'est quand même la mère dans son corps aussi et sa psyché. Donc c'est un moment où effectivement il va falloir de faire une nouvelle séparation, c'est-à-dire vraiment que le parent fasse comprendre aussi à l'enfant qu'on ne peut plus être dans l'appropriation du corps de l'autre, c'est-à-dire passer ce plaisir de manipuler, de toucher, de sentir, au fait que non, le corps de l'autre n'est pas un objet. Et c'est aussi ça qui est un peu difficile pour aussi bien le garçon pour la fille. Ce qui est spécifique aussi, c'est que cette différence de sexe, le garçon a un sexe visible, érectible, manipulable, et du coup, il en est fier, ça fait même, il pense que tout le monde en a un, sa mère, son père, ses frères, ses sœurs, et tout d'un coup, il voit que, ben non, la fille et la mère, elle n'en a pas. Donc, ça peut être une angoisse. Une angoisse, se dire, ben si elles ne l'ont pas, peut-être qu'on lui a pris. Donc le premier réflexe d'un garçon, c'est quand même cette peur d'avoir été privé de son sexe, qui est à la fois sa fierté et le nouveau centre d'intérêt. Il pense sa puissance aussi, parce que c'est symboliquement aussi, dans le discours, etc., c'est, comment dirais-je, s'ériger, conquérir, pénétrer. Donc il y a toute une symbolique autour de cet objet, ce pénis, mais qui est symbolique, voilà, mais qui est concentré. Alors que la fille, c'est tout autre chose. Il va falloir qu'elle découvre. Déjà, comme le garçon, premier objet d'amour, c'est sa mère. Et quand elle découvre que sa mère, elle est aussi privée du pénis, ça peut être une déception et une blessure. C'est-à-dire, on m'a trahi. On m'a privé de quelque chose que le garçon a. Donc, c'est pour ça qu'avant d'intégrer, il faut faire des deuils et comprendre que cette différenciation et qu'elle soit valorisée par les parents. C'est-à-dire, c'est bien d'être dans le sexe qu'on a et que ça n'empêche rien de la destinée future. C'est-à-dire qu'on se construit en tant qu'identité aussi bien avec du masculin qu'avec du féminin. Mais on n'est que d'un seul sexe. Donc c'est aussi cette différenciation entre l'identité sociale, les rôles sociaux et l'appartenance génitale à un seul sexe. Là encore, il y a cadermaphrodisme sont excessivement rares. Donc c'est aussi toute l'aventure ultérieure de la sexualité qui peuvent inquiéter les parents d'ailleurs plus que les enfants. Eux, ils ont uniquement à se préoccuper du fait qu'ils ressentent des choses, que c'est complexe, qu'ils ont envie de s'en servir, que tout d'un coup ils découvrent que c'est pas possible, en tout cas pas dans le corps à corps, et que c'est ça que doivent signifier les parents si on n'est pas en tout cas un objet. Déjà, mais on est des sujets désirants et qu'il faut être dans une certaine respect du corps de l'autre.
Oui, en tout cas, là, dans ce que vous disiez, il y a pour le petit garçon donc, qui s'aperçoit voilà, que lui a un pénis, mais que les filles et les femmes n'en ont pas, cette angoisse qu'on appelle souvent angoisse de castration, hein, donc la peur que si d'autres voilà, n'en ont pas, qu'on puisse lui couper, lui enlever. Et puis pour les filles, le fait de voir qu'elles n'auraient pas, c'est parce qu'elles s'imaginent qu'elles n'ont pas quelque chose que l'autre a, c'est lui permettre de découvrir ce qu'elle a. Elle, qui est à l'intérieur, le clitoris, voilà. Le vagin.
Mais comme toujours, ce qui est sensible de ce qui est visible, c'est-à-dire que ce qu'on éprouve corporellement dans son corps, c'est pas vu de l'extérieur. Donc comment quand même des êtres humains, on est très centré sur la vue, cette captation de l'image, ce narcissisme. Les choses ne semblent exister parce qu'on les voit. Est-ce qu'on voit pas ? En gros, ça n'existe pas. Donc c'est quand même très ancré dans l'univers psychique des grands comme des petits. Donc chez les petits, c'est encore plus compliqué parce que les grands ont pu faire l'apprentissage que de ce qu'ils ne voyaient pas pouvait exister, pouvait être réel et puissant. Alors que chez les enfants, faut accompagner cette découverte. En tout cas, elle va arriver. Là encore, il faut faire confiance. Parce que la petite fille, elle a des tas de sensations, des tas d'émotions, des gestes qui peuvent l'aider aussi à découvrir que c'est un organe sensoriel. Mais effectivement, il ne peut pas être pénétré. C'est la grande différence. D'ailleurs, comme le petit garçon ne peut pas pénétrer. Voilà, ce qui est intéressant et important, c'est qu'on parle de sexualité, de sexe, mais la réalité des enfants est tout autre de celle des parents. Donc aussi bien dans le vocabulaire que dans les fantasmes parentaux, là, les bébés, les petits à cette époque-là, ils fantasment ce qu'on appelle les théories sexuelles infantiles. Ils pensent que les enfants se font en s'embrassant sur la bouche et s'expulse par l'anus. Donc, il y a déconstruire tout un imaginaire autour de ça. Cette période, donc, complexe d'Œdipe, il se passe parce qu'il y a un nouvel interdit, c'est l'appropriation du corps de l'autre, ce qu'on appelle l'interdit de l'inceste, qui est une réalité aussi. C'est-à-dire que l'autre n'est pas un objet qu'on prend. C'est-à-dire rentrer aussi à cette époque-là dans... Il y a des règles humaines, y compris auxquelles sont soumis les parents. C'est-à-dire, quand les parents introduisent des règles, c'est pas leur bon vouloir et c'est pas arbitraire. C'est qu'eux-mêmes sont soumis à des règles humaines. Et parmi ces règles, c'est l'interdit de l'inceste, l'interdit du viol. À cet âge-là, ça n'a pas beaucoup de sens, parce qu'il ne peut pas y avoir de passage à l'acte comme un adulte. Mais il y a cette intention, et c'est ça qui est important à identifier et à réguler.
En tout cas, là, dans tout ce que vous nous dites, Elisabeth, ça m'évoque beaucoup ce que nous a dit Sonia Le Bruy dans l'épisode sur comment parler de sexualité aux enfants. L'importance, tout d'abord, de nommer avec les vrais mots le sexe des enfants, hein, que c'est une manière notamment d'aider la petite fille à comprendre son propre corps et à intégrer, même s'il peut y avoir du sentiment de trahison, de ne pas avoir eu le pénis, elle a quelque chose et le fait de le nommer, c'est très important.
C'est justement, on n'a pas, on est. On est vraiment tiré du côté de l'être. Alors, il a des dispositions et des organes spécifiques différents, mais à valoriser autant les uns que les autres, et qu'ils sont au service du respect et du déploiement des êtres humains. C'est à ce moment-là, c'est l'introduction dans des règles humaines structurantes et sécurisantes.
Ce conflit œdipien chez le garçon et la fille peut se manifester finalement de plein de manières différentes. Alors peut-être une des premières manières qui parfois vient un peu chahuter les parents, c'est dans leur découverte du corps et du plaisir que peut avoir le corps et cette partie du sexe, donc les comportements de frottement, de caresse, donc tous les comportements de masturbatoire, qui parfois viennent un peu... en tout cas, les parents ne savent pas toujours comment réagir ou comment faire. Et puis là, l'importance de ne pas mettre ses lunettes d'adulte, mais de mettre ses lunettes, les lunettes de l'enfant. Et que dans ces comportements-là, c'est une découverte du corps, une découverte du plaisir, mais que ça n'a rien à voir avec la sexualité adulte.
Donc, ni violence, ni complaisance. Donc ça, là encore, c'est introduire une bonne distance, et ça peut être dans le regard, dans le mot. Mais cette idée aussi que, tout d'un coup, l'enfant a droit à une intimité. C'est-à-dire que c'est effectivement lui apprendre à ne pas se masturber en public, face à d'autres, plus grands, adultes, etc. Parce que c'est une activité à protéger, donc dans un espace d'intimité. Et je crois que là aussi, c'est important. Aujourd'hui, on est beaucoup dans toutes les images qui circulent, tout est égal, tout est ouvert, etc. La permissivité générale, ça peut être assez dévastateur. C'est-à-dire que là, c'est vraiment, c'est mon corps, il a des émotions, il a des sensations, je peux les provoquer, mais ça m'appartient. Et il faut que je m'en protège des adultes ou des plus grands. Hein, par exemple, dans les écoles, le mélange des petits-enfants de maternelle, d'ailleurs, c'est assez séparé. Mais ça, des plus grands, 7-8 ans, peuvent effectivement être vécus comme des violeurs, entre guillemets. C'est-à-dire dans une intrusion, aussi bien par le regard que par le toucher, dont il faut protéger les plus petits. Autour de 3-4 ans.
Voilà. Oui, d'ailleurs, généralement, dans les écoles, il y a une séparation entre les toilettes des maternelles et les toilettes du primaire.
C'est l'affaire de l'enfant, là encore, de nouveau confiance. Il va découvrir. Et si on n'est ni trop inquiet, ni trop censeur, et pas dans la complaisance, à la limite, vouloir accompagner ou expliquer trop, même s'il faut nommer le sexe et nommer l'idée qu'il va s'en servir plus tard pour éventuellement faire des bébés, mais aussi pour la jouissance. Ça peut être ça, mais pas plus. Mais voilà, mais maintenant, le corps des autres leur appartient et eux, ils doivent protéger le leur. Et rester voilà, dans cet espace bien délimité qui est l'intimité de la chambre,
du lit, de la salle de bain, des toilettes.
Voilà.
Il y a aussi tous les comportements de voyeurisme et d'exhibitionnisme. Alors là, je pense notamment aux petits garçons, souvent à cet âge-là, qui se promènent tout nus, qui montrent fièrement souvent leur zizi, leur pénis. Voilà. Là aussi, comment les parents peuvent-ils accompagner ces comportements-là?
Si les parents sont tranquilles avec ça et que la nudité n'est pas un problème pour eux, à 3 ans que l'enfant court tout nu, et on le sent enthousiasmé par le fait de se montrer ou vouloir découvrir, que le parent refuse d'être dévoilé dans son intimité, ça me paraît très important. En revanche, que l'enfant s'exhibe, si c'est de temps en temps et qu'effectivement, on lui dit oui, mais si la voisine arrive ou si les grands-parents arrivent, voilà, ça c'est ton affaire, c'est très bien, c'est super, mais...
Oui, ça peut être un moment de jeu finalement, de ça jouer être, avec voilà. ça, avec l'enfant, voilà. tout en posant un cadre.
Et comme effectivement, il n'y a pas d'inquiétude du côté d'une sexualité telle que cela représente les parents, il y a aussi des usages sociaux. Le rapport à la nudité, il s'est codifié socialement.
Est-ce qu'on pourrait dire d'ailleurs que cette étape du complexe d'Œdipe est aussi une première étape pour l'enfant d'apprendre ses règles sociales et la loi et les règles.
À travers l'interdit de l'inceste, c'est vraiment oui un apprentissage des lois, c'est-à-dire que c'est réglé par d'autres humains que ses parents et qu'il y a des codes. Vestimentaire, il y a des codes, il y a des endroits où on peut être en maillot, d'autres où il faut être habillé, on ne va pas tout nu à l'église. Enfin, c'est tous ces apprentissages-là qui régulent et qui protègent et qui font appartenir au collectif et à ces règles qui peuvent varier d'une société à l'autre. Mais il ne faut pas être trop en dissonance.
Oui, d'ailleurs, cette étape du conflit oedipien, c'est aussi une étape vraiment de début de socialisation.
Tout à fait.
Plus importante chez l'enfant.
Absolument. Le petit garçon, se sent rival avec le père, mais comme il sait qu'il ne peut pas posséder la mère et que c'est, de toute façon c'est interdit, il se met en rivalité avec le père, mais après il s'identifie au père aussi. Et le garçon, pour lui, l'aventure est plus rapide dans le temps et dans la complexité. Puisqu'il avait ce premier élan amoureux vers la maman avec qui il veut se marier. Tout d'un coup, c'est pas possible. On lui signifie que non, c'est absolument interdit. Mais c'est pour plus tard, ça va être très très bien. Il peut se dire, je vais être comme papa, parce que étant comme papa, je vais pouvoir conquérir plus tard des femmes qui sont aussi bien que maman. Enfin, je schématise un peu. Mais c'est cette idée du coup, ça ouvre vers l'extérieur. Puisqu'au début, tout est dans l'enclos familial. L'extérieur n'existe qu'à travers mon des mots ou des... Mais tout d'un coup, c'est l'espoir aussi, c'est promotionnant, de se dire « je vais faire comme les parents, mais ça sera à l'extérieur de la famille. » Donc voilà pour le petit garçon. Pour la fille, c'est plus complexe. Parce qu'il faut d'abord qu'elle se détourne de sa mère, y compris qu'elle lui en veuille, que ça devienne après une rivale quand elle se tourne vers le père. Mais le père l'a aussi dit non, on ne va pas se marier du tout avec moi, ça sera pour plus tard. Donc c'est un moment plus long et le rapport mère-fille est souvent plus complexe que le rapport mère-fils. Parce qu'il y a une identification et une confusion des premiers objets d'amour un peu toto-passionnels qu'il faut déconstruire. Avec cette idée aussi qu'il y a une appropriation de son corps, de son image et de la particularité de son sexe, qui est là encore une découverte, qui est moins évidente, moins visible, plus complexe. C'est pour ça que ça prend souvent un peu plus de temps.
Là, vous parliez, vous preniez en exemple toutes ces phrases qu'on peut entendre de la bouche des enfants. À ce moment-là, je vais me marier avec papa, maman, avoir un enfant avec maman. Qui peuvent être aussi le signe qu'il y a quelque chose de cette étape-là qui est en train de se dérouler, de se vivre. Ce qu'on peut aussi parfois observer, c'est les enfants qui vont être collés du coup à l'un des parents. Souvent, c'est une période où le petit garçon va être très collé à sa maman et la petite fille très collée à son papa. comment le parent peut accompagner ça? Est-ce qu'il faut décoller? Est-ce qu'il faut laisser faire?
J'allais dire, il faut peut-être voir ce que ça produit chez le parent. Si c'est de la gêne, de la fatigue, de l'inquiétude, à ce moment-là, effectivement, c'est important de se dire qu'est-ce que ça provoque en moi. Parce que qu'un enfant de 3 ans soit collé à son père ou à sa mère, et indifféremment, ça peut être justement cette nouvelle angoisse. Besoin d'être rassuré à la fois dans cette nouvelle étape, dans cette appartenance à un sexe identifié, dans le fait qu'effectivement, quand on change d'étape, on a besoin de se sécuriser, donc des fois on a besoin de revenir à des étapes antérieures. Hein, ce qu'on appelle la régression, ce qui est un grand mot. Mais on le fait tous. Quand on est malade, on va se mettre sous la couette et on a envie qu'on s'occupe de nous.
De manger du chocolat.
Donc, c'est normal qu'un enfant qui est en constant développement, et en particulier à ce moment-là, de bouleversement assez important, ait besoin d'être réassuré dans le maternage et le paternage. Donc, c'est ambivalent, c'est double. Donc, si le parent entend ce besoin d'être contre et que lui, c'est clair pour lui, il n'y a pas de souci, qu'il peut lui accorder ce petit délai tout en le poussant un petit peu, en lui trouvant des activités ou des jeux ou des copains, ne pas être angoissé et donc parler de son angoisse si on en a concernant ce moment. Parce que parfois, aujourd'hui, c'est l'angoisse de l'autonomie. Alors, en gros, on veut qu'un nourrisson soit autonome à un mois. J'exagère. Mais comme on sait que les enfants évoluent, sont autonomes...
Oui, en tout cas, cette idée...
On a envie de précipiter cette autonomie, alors qu'effectivement, dans tout ce parcours, il y a constamment des petits retours en arrière et des besoins d'être encore un bébé.
Oui, en tout cas, cette question de l'autonomie, ça va avec cette question de la performance. Où aujourd'hui, il y aurait cette idée de rendre nos enfants performants pour qu'ils s'insèrent plus facilement dans la société, qui est difficile aujourd'hui et qui est complexe. Et que finalement, on oublie qu'il y a des étapes qui sont nécessaires, qui vont se faire, que l'enfant est programmé pour ça. Et que finalement, d'essayer de faire en sorte qu'il aille plus vite, ce n'est pas forcément lui rendre service ou l'aider.
C'est presque contre-productif. C'est-à-dire que l'enfant, en sentant ce désir du parent qu'il aille plus vite que son rythme à lui, va de toute façon se débrouiller éventuellement pour honorer cette attente, d'une façon ou d'une autre, mais ça le met en conflit et en déséquilibre avec lui-même. Donc les enfants peuvent surcompenser pour faire plaisir, mais ce développement moteur, affectif, physique, peut souffrir parce que l'enfant va surcomposer par des comportements qui satisfont les parents, mais qui l'ont empêché de continuer à s'assurer qu'il y a des fondations, il y a des racines, qu'il est bien stable.
Ce qui me semblait aussi très important là, dans ce que vous nous disiez, c'est la question de la régression. Finalement, à chaque étape, il peut y avoir des régressions. Et là aussi, comment le parent va pouvoir accompagner, et que souvent, c'est important de pouvoir entendre celle-ci, et que finalement, un enfant qui va redemander un biberon, est-ce que c'est grave ou pas? Et puis, d'accord, souvent, le fait de lui donner, ça va... il n'y aura pas d'enjeu, du coup, dans la relation. Voilà. Et de pouvoir entendre dans ces régressions que ça peut être aussi un moyen pour l'enfant de s'assurer de l'attention, de l'amour des parents, qu'il a besoin de remplir son réservoir affectif pour continuer de construire sa maison.
Absolument. Donc là encore, c'est nommé. C'est-à-dire que le parent n'est pas dupe. À un moment donné, il a un besoin, pourquoi pas, de biberon. Et puis, très vite, l'enfant va se rendre compte, même avec la communauté de ses petits copains, que ce n'est pas l'usage. Et que, mais il s'est fait plaisir. Le parent lui a accordé ce plaisir. Mais cette peur des parents qu'un signe posé soit le signe d'une pathologie ou d'une régression ou d'une installation. Voilà. Non, on est constamment à faire des gestes ou des demandes qui, si elles sont honorées ponctuellement, ne sont pas plus graves que ça. Voilà.
Oui, souvent c'est transitoire.
C'est toujours transitoire. Ouais. La vie est constamment transitoire. Mmh. Donc si le parent n'est pas scotché dessus, ça aide l'enfant à ne... Voilà, c'est pas important, quoi. Un biberon, ça peut faire plaisir, mais s'il demande 3 fois de suite, non, ça suffit maintenant.
Oui, en tout cas, répondre à ce besoin-là tout en valorisant le fait de grandir.
Exactement.
Il va y trouver d'autres choses et que ça n'empêche pas de continuer de s'aimer et de recevoir l'amour des parents.
Absolument.
Cette période aussi du conflit oedipien, c'est souvent une période de rivalité, de grande rivalité, de rivalité fraternelle. Alors c'est aussi finalement en lien avec cette question de la régression parfois, redevenir le petit enfant de sa maman. Comment voilà, ces rivalités peuvent-elles se gérer?
J'aurais envie de dire que la rivalité, elle est pratiquement inscrite dès le départ et elle est liée au fait qu'on a l'impression que les autres alentours qui comptent pour les parents vont capter l'attention au détriment de ce dont on a besoin. Donc la rivalité, la jalousie, j'allais dire, c'est presque donné à la naissance, hein, avec cette peur de manquer, cette peur de ne pas être aimé, etc. Mais disons que jusqu'à l'âge de 3-4 ans, on ne l'exprime pas de façon aussi manifeste. Tandis que là, dans les jeux, dans les positions, on peut l'exprimer de façon affirmée, voire consciente. Et c'est important aussi que les parents le conscientisent, comme quelque chose qui n'est pas mal. On a le droit de ne pas aimer son petit frère parce qu'il fait un truc. Ce n'est pas qu'on ne l'aime pas. Là aussi, il faut faire les nuances. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours dans l'amour dégoulinant. Mais que c'est justement tous ces conflits-là, donner aux enfants la possibilité de les régler comme quelque chose qui est à la fois normal, mais qui les aide à comprendre qu'ils ne sont pas uniques, qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils peuvent se débrouiller et que ce n'est pas pour autant qu'ils sont ni abandonnés ni mal aimés. Mais que c'est normal qu'ils s'inquiètent, c'est normal qu'ils soient jaloux, c'est normal qu'ils soient en colère. Mais quand vous parliez de la maîtrise...
Et qu'il a le droit de l'exprimer.
Il a le droit de l'exprimer, mais justement, il a les mots, c'est-à-dire que plus que les gestes, c'est-à-dire apprendre que les mots peuvent signifier des désaccords, des soucis, des douleurs, mais qu'on ne les passe pas à l'acte. C'est ça aussi le propre de l'humain, et c'est ça la loi humaine, c'est que le mot vient aider à la résolution de conflits qui sont normaux, mais qui permettent de ne pas agir.
Oui, en tout cas, là, ce que vous dites, ça m'évoque le fait aussi que c'est une période où, pour l'enfant, se développe énormément l'imagination. Où l'enfant, où l'imagination a une place très importante, il joue énormément, il s'invente des histoires. Alors il y a les jeux d'imitation, jeux du papa, de la maman, du docteur, mais aussi tous ces jeux par rapport à la question de la rivalité où on va dégager, tuer les petits personnages avec lesquels l'enfant joue. À quoi il sert le jeu ?
Alors entre 2 et 6 ans, c'est une forme fondamentale de connaissance de soi et du monde, et d'expression de la capacité humaine d'expérimentation et d'adaptation. Le jeu, c'est comme une scène, comme le théâtre pour les adultes, où on va jouer et rejouer tout ce qu'on vit, les conflits, les choses bien, l'imaginaire, à travers des objets, à travers des scénarios qu'on invente. Le moteur principal de la régulation affective. Cet espace de jeu. Donc un enfant qui ne jouerait pas, alors après il y a les pathologies du jeu, j'y reviendrai, mais ça peut être une façon de se défendre contre des pulsions sexuelles agressives par exemple, ou agressives, mettre en scène l'agressivité. Voilà, c'est pareil, c'est comme une forme d'expression. Comme ils n'ont pas les mots, eux ils le jouent. Donc c'est vraiment un espace transitionnel sur lequel on joue les choses parce qu'on n'est pas en mesure de les maîtriser intellectuellement, logiquement, analytiquement. Donc on les joue et on les rejoue
pour
redéfinir sa place, prendre la position des autres, l'expérimenter. Donc c'est absolument capital. C'est une fonction dite symbolique absolument capitale. Et c'est aussi passer de ce qu'on a vécu comme passif en actif, mais sans passage à l'acte, puisque c'est un espace imaginaire. Là encore, je reviens, le théâtre pour les adultes est un espace de jeu. Les activités ludiques pour les adultes est un espace de jeu. Il peut remettre en jeu et se redéfinir et se redécouvrir sous une autre, un autre rôle, hein, et liquider comme ça des frustrations, des inquiétudes, des angoisses, au lieu de les servir directement avec les compagnons. Et souvent, le jeu doit être effectivement quand même surveillé par l'adulte. Laisser à l'enfant cette liberté de jouer, mais là encore, définir un cadre, une limite de temps, des jeux pas dangereux pour l'enfant, sans intervenir. Mais surveiller de loin.
En tout cas, là, Elisabeth, vous nous dites bien que le jeu, c'est sa fonction sublimatoire, catharsis, qui permet aussi à l'enfant de s'exprimer, de mobiliser ses ressources, et que les parents aussi, comme vous dites, voilà, de surveiller de loin, ça donne aussi des indications aux parents de ce qui se passe dans la maison interne de l'enfant.
Absolument.
Et du coup, de pouvoir aussi ajuster ses réponses, l'accompagnement qu'il va apporter à l'enfant. Ça m'évoque aussi autre chose, la question des histoires. Souvent, j'entends, alors c'est aussi les âges où il va y avoir la peur du loup, la peur du noir, et où les parents vont dire, ah ben non, on va surtout pas lire des histoires qui font peur, alors qu'au contraire, voilà, on sait l'importance de jouer avec ça, de jouer avec les peurs, au contraire, de jouer au loup, de lire des histoires, ça va permettre à l'enfant de s'approprier sa peur et du coup de pouvoir la dépasser. C'est souvent aussi, voilà, petit à petit, l'enfant continue de se développer, ses relations aux autres se développent. On a parlé de l'entrée à l'école maternelle, hein, qui va l'amener à intégrer davantage les règles de vie avec les autres. Au niveau de son développement social, voilà, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour l'enfant ?
C'est les prémices de la socialisation dans la société, en fait.
Oui, on en parlait tout à l'heure, l'intégration, voilà, des règles, de la loi, puis des règles pour... et de là, la capacité de l'enfant de pouvoir les intégrer et les respecter. C'est aussi, petit à petit, l'enfant, voilà, fait l'expérience que les parents ne sont pas dans sa tête, qu'il a une identité qui lui est propre, une autonomie qui lui est propre. Là, l'enfant prend aussi conscience de ce monde interne, de cette maison interne qu'il a en lui. Là, c'est important que les parents respectent ça, même si ça peut parfois être inquiétant, hein, de voir son enfant filer entre les doigts, entre guillemets. Petit à petit, en tout cas, c'est aussi un âge vers 5, 6 ans, 7 ans, où va apparaître la question du mensonge. Alors, qu'est-ce qui se passe autour de cette question-là pour l'enfant ?
Ce moment 5-7 ans, c'est le moment où l'enfant commence progressivement à distinguer l'imaginaire du réel. Ce qui est aussi une des fonctions fondamentales, c'est que, justement, nos fantasmes, ils ont leur réalité, mais ce n'est pas la réalité. Et donc, tous ces jeux permettent de faire cette distinction. Mais on appelle cet temps l'âge de raison. Et l'âge de raison, c'est effectivement l'âge où on commence à distinguer, chose que les adultes, voilà, ont encore un peu de mal à distinguer entre leurs désirs, leurs fantasmes et la réalité. Ça interfère. Bon, mais quand même, il y a une coupure, une séparation qui commence à être assez nette pour l'enfant entre réalité et fantasme. La question du mensonge, justement avant 7 ans, c'est plutôt l'expression chez l'enfant d'un désir. Et donc, il va fabuler parce qu'il va se raconter. Il a envie que ce soit comme ça. Donc, il va raconter aux parents que ça s'est passé comme ça.
Voilà. Oui, là, finalement, il va parler de sa réalité.
De sa réalité, voilà.
Lui, mais il n'est pas dans la position de vouloir tromper ou duper l'adulte.
Non, ce n'est pas manipulateur, forcément. Hein. Ça peut le devenir, justement, après 7 ans, un petit peu. Mais de toute façon, le mensonge chez les enfants, c'est toujours un symptôme de quelque chose. Donc ça peut être effectivement la difficulté de rentrer dans un monde de réalité, de règles, et de ne pas l'accepter. Ça peut être un premier indice. Ça peut être une façon de se réfugier quand effectivement, éventuellement, les parents attendent trop, ou les responsabilisent trop, ou les moralisent trop. C'est une façon de se préserver en disant, ben non, moi je me suis construit mon monde pour continuer à m'exprimer, à me développer, pour aussi me protéger de règles qui peuvent paraître un petit peu difficiles à respecter. Hein. avant 7 ans. Après 7 ans, je pense qu'il y a une relative conscience qu'on pipote, c'est-à-dire que ce n'est pas la réalité. Mais là encore, ça peut être aussi pour résister contre des exigences trop importantes. Et là, ça peut être aussi, surtout quand on va vers l'adolescence, une façon de préserver une intimité, des jardins secrets, que l'angoisse des parents qui veulent tout savoir et qui entretiennent justement le fantasme qui sont dans la tête des enfants. Donc là aussi, ça se joue toujours dans cette interrelation, hein, la séparation entre imaginaire et réel, et les enjeux aussi relationnels que ça signale. Le mensonge est un indice. Certains enfants, il y avait un exemple extraordinaire, c'était un petit garçon qui avait été adopté en Tchétchénie à 7 ans. Pour lui, ça avait été une stratégie de survie, et les adultes mentaient. Quand un enfant naît dans un univers où le mensonge est une façon aussi de manipuler, de flirter avec la réalité pour manipuler l'autre, ça peut être aussi un modèle dans lequel l'enfant s'est un peu construit. Donc, vous voyez, le mensonge, c'est quand même quelque chose d'assez complexe. Enfin, dans des familles qui vont bien, dans des familles qui n'ont pas besoin de cacher, où il n'y a pas de danger particulier, ça reste un jeu avec l'imaginaire. Et donc, s'il se répète, s'il est systématique, c'est que ça peut signifier que l'enfant a besoin d'être entendu dans sa réalité et que c'est important de lui poser la question. Alors, on peut identifier le fait qu'il ait menti, mais lui hurler dessus, lui dire qu'il est méchant ou mauvais ou à jeter, enfin, dans l'imaginaire de l'enfant, ça peut être pris comme ça, est un peu contre-productif.
Bien sûr. En tout cas, là, du coup, c'est vrai que ça m'amène aux questions des parents que je peux recevoir. Voilà, est-ce qu'il faut punir ? Comment évaluer un mensonge qui serait grave d'un mensonge qui ne serait pas grave ? En tout cas, voilà, peut-être qu'il y aurait des degrés différents.
Alors, là encore, je référerais à la posture parentale. C'est-à-dire, pour des parents, l'éthique de la vérité doit être absolument respectée. Le moindre manquement est considéré comme une atteinte grave à la morale et à l'éthique et peut être signifié comme ça. Donc, ça peut être... ça structure l'enfant dans une certaine exigence, mais ça peut l'amener aussi à flirter avec la vérité pour essayer de se préserver des espaces de liberté. Mais il y a des parents pour qui rien n'est grave et tout est pardonnable. Et ce n'est pas que c'est mal ou c'est bien, mais il y a des apprentissages de règles où être face à la réalité de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, c'est très important pour structurer l'enfant par rapport au futur. Qu'il sache, c'est ça, c'est confronter l'enfant à cette césure entre réel et imaginaire, d'une certaine façon. Lui faire prendre conscience qu'il est responsable de ses actes, qu'il peut avoir envie de les poser, mais qu'une fois qu'il les a posés, il les a posés dans le réel, donc il y a des effets dans le réel. J'ai cassé un truc, c'est moi qui l'ai cassé, je dois l'accueillir, l'accepter, et puis après, si ça ennuie énormément les parents, il peut y avoir une petite punition dans la culture des parents. Mais comment je répare aussi ? Comment je contribue à réparer un acte que j'ai posé, une bêtise que j'ai faite ? Je dois déjà... la considérer, accepter que c'est moi qui l'ai fait, et ensuite, éventuellement, contribuer à une réparation. Ça peut être symbolique. Mais c'est ça, c'est promotionnant, c'est pas humiliant ou terrorisant. Et les stops ou les interdits sont importants aussi. C'est-à-dire que l'adulte, du fait de sa fonction de répondre aussi des actes de l'enfant, doit être en mesure de lui poser un interdit ferme. Et là encore, ce n'est pas pour l'humilier ou lui casser les pieds, même si ça lui casse les pieds, il a le droit de ne pas être content, mais que l'adulte est là aussi pour se substituer en cas de fragilité, de défaillance, d'incompétence de l'enfant face à ses actes.
Oui, là, ce que vous évoquez, ça m'évoque la question de la transgression qui fait partie du développement de l'enfant aussi. Et dans ses âges, on va voir, l'enfant va tester les règles, les transgresser. Alors, il va y avoir des transgressions entre guillemets mineures, puis d'autres qui seront peut-être plus dangereuses pour l'enfant. Donc là, c'est aussi comment on va accompagner l'enfant, de l'aider à prendre conscience du danger dans ces âges-là où il peut commencer à en percevoir et en comprendre quelque chose.
Voilà. Parce que la transgression, c'est... alors, c'est complexe parce que cet âge, 7-12 ans, c'est l'âge où on intériorise et on accueille et on accepte les règles des adultes. Avec éventuellement ce qu'elles ont d'arbitraire, parce qu'elles sont culturelles, donc elles peuvent évoluer. Donc effectivement, si le parent n'est pas attaché à la règle de façon fanatique, ça lui permet de réaliser que les règles sont utiles à la vie en collectivité, ça le protège, ça protège les autres. Donc c'est déjà une phase d'apprentissage. Et après, on va commencer à flirter avec la transgression, parce que la transgression, c'est quand même la source de la créativité. C'est-à-dire, on m'a dit que c'était comme ça, mais moi, j'ai besoin d'expérimenter et d'aller toucher un peu la frontière pour savoir si elle tient, si elle ne tient pas, s'il n'y a pas d'autres circuits, etc. Donc, c'est quand même, voilà, au principe de la transgression, c'est le désir d'expérimenter et de tester des règles qui, effectivement, entre les lois fondamentales de l'humanité, tu tues pas, tu violes pas. Après, la plupart de nos règles sont assez arbitraires et culturelles, elles sont nécessaires à la vie collective, mais on a très envie, et c'est important parce que ça garde vivant l'esprit critique, participe de ça. On me dit ça, oui, c'est intéressant, mais j'ai quand même envie d'aller vérifier. Je vais voir ailleurs, etc. Donc, voilà, comment tenir ? Il y a un moment où il faut effectivement contraindre l'enfant à des règles, mais lui faire déjà entendre que plus tard, il peut les remettre en cause. Et qui peut les tester, mais qu'il y en a qui sont liés à sa sécurité physique ou psychique, et là, c'est du ferme, et on n'a pas à transgresser. Et si on le fait, eh bien, c'est interroger les raisons.
Donc là, on est passé dans cette nouvelle étape du développement, nouvelle période du développement de l'enfant qui commence autour de 6-7 ans et jusqu'à l'entrée dans l'adolescence. Donc là, vous nous dites bien qu'au niveau intellectuel, c'est aussi une étape importante, l'intériorisation des règles morales qui sont plus imposées par les parents, mais imposées à l'ensemble des personnes de la société, que le langage s'est énormément développé, que l'enfant va vraiment pouvoir exprimer des choses. Au niveau moteur aussi, il y a vraiment une plus grande aisance, une plus grande coordination, ce qui lui permet d'acquérir notamment, de maîtriser l'écriture, et puis de prendre aussi plus d'autonomie dans les tâches quotidiennes de sa vie. C'est aussi une période alors qu'on appelle souvent période de latence. Qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est une période où effectivement tous les émois sensoriels, émotionnels et qui étaient propres aux périodes, aux stades antérieurs qui mobilisaient, elles n'ont pas disparu, mais elles sont mises en veilleuse parce qu'effectivement toutes les satisfactions et toutes les découvertes que les enfants ont fait dans les périodes antérieures liées à leur corps, etc. Maintenant, ils investissent l'intellect, le mental. Donc, ce qu'on appelle aussi une période de sublimation. C'est un gros mot pour dire que toute cette énergie mise sensoriellement au service de la découverte du monde physique, etc., ils le mettent au service d'activités beaucoup plus cérébrales.
C'est-à-dire que intellectuelles,
artistiques, même d'activités. Ça peut être des activités
sportives.
Sportives, de dessin, de création, etc. Voilà, c'est-à-dire qu'il investit le monde autrement que exclusivement sensoriellement et charnellement. Donc c'est une nouvelle phase où il prend du champ et où il investit d'autres espaces passionnants de la vie, à la fois individuellement et collectivement.
On dit latence, mais il ne se passe pas pour autant rien. En tout cas, toutes ces questions autour de la sexualité vont continuer. Il y aura toujours des questions qui, du coup, là, passeront plus peut-être tout à fait à travers le corps, comme vous nous disiez, mais plus par l'intellect, où là, l'enfant va pouvoir davantage comprendre comment on fait les bébés, par exemple.
Absolument, parce qu'effectivement, là, c'est le savoir. Un intérêt et un appétit pour savoir les choses et le savoir sur le plan intellectuel. Et là, effectivement, il peut y avoir... d'ailleurs, aujourd'hui des petits ouvrages qui expliquent un peu c'est quoi le corps des enfants, avec un descriptif un peu plus technique, clinique, des différentes fonctions du corps, parties du corps. Et ça peut les passionner et ça tient lieu, voilà, ça les distrait de tout ce qui se passe en eux, qui est très important puisque c'est quand même la préparation de l'adolescence, c'est-à-dire l'arrivée, d'une marée pulsionnelle hormonale qui va transformer le corps et l'esprit. Donc c'est une période d'accalmie où ça se ça se met en place à bas bruit, ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et on parle à ce moment-là d'amnésie infantile. Et c'est pour ça qu'effectivement, la plupart des adultes, sauf ceux qui font un travail analytique ou psychothérapeutique, n'ont plus accès à cette période de 0 à 6 ans. C'est comme si elle était... c'est pas qu'elle n'existe plus et qu'elle n'est plus agissante, mais elle n'est plus consciente. Ça s'appelle un grand refourlement. C'est-à-dire qu'on met, tout ça un petit peu sous la couette, sous le couvercle, pour justement laisser ce temps du développement d'autres dispositions intellectuelles, sociales, culturelles, etc.
Oui, c'est d'ailleurs à l'école le temps vraiment des apprentissages, la lecture, l'écriture, la logique, les mathématiques, l'histoire, etc.
Absolument. Et s'il y a des manifestations pathologiques du côté du sexe, ça va être exprimé dans des jeux, des jeux violents ou des jeux, pas érotiques parce que ça, c'est pas ça, mais où la préoccupation du sexe reste très présent. À ce moment-là, ça veut dire que l'enfant a une difficulté spécifique qu'il faut prendre en considération.
Du coup, souvent, les difficultés cette étape-là, ça va être autour des difficultés des apprentissages. Que peuvent traduire ces difficultés dans les apprentissages ?
Ce n'est pas nécessairement une pathologie, mais c'est que ces mécanismes un peu subtils peuvent soit parler de méthodes pédagogiques qui ne fonctionnent pas avec tous les enfants. L'intelligence et les rythmes des enfants, y compris sur le plan du développement intellectuel, est quand même assez variable. Donc parfois, ça peut être une méthode qui ne convient pas à certains styles d'intelligence, parce qu'il y a aussi des types d'intelligence. Comme on peut être grand, petit, on a des types d'intelligence. Et que les méthodes pédagogiques utilisées ne sont pas forcément les plus adaptées. L'enfant va s'y faire, mais il va prendre du temps. Et parfois, ça peut être un signe qu'il a du mal à intégrer un certain nombre de mécanismes intellectuels qui se signalent par difficulté d'écrire ou d'apprendre à lire. Ce n'est pas forcément une pathologie. Mais ça peut aussi signaler que l'enfant n'est pas disposé ou n'est pas prêt, parce qu'il y a tout apprentissage se fait aussi en articulation avec un lien humain et donc un lien affectif. Très souvent, ça peut être aussi une difficulté. D'accordage avec l'enseignant, ça peut être avec les autres enfants. Dans la famille, il peut y avoir un enfant qui est particulièrement brillant scolairement. C'est aussi une façon de signifier. Donc, c'est un symptôme de choses multiples. Et aujourd'hui, avec un certain nombre de spécialités, on arrive. Alors, techniquement, à faire de l'orthopédie mathématique, etc. Mais il faut toujours interroger le lien et les difficultés passagères que peut éprouver l'enfant, soit dans le collectif, soit dans la famille, soit dans les deux. Ça peut être un indice.
Oui, en tout cas, il y a aussi beaucoup d'enjeux autour de la question de la réussite scolaire qui est perçue par les parents comme la réussite absolue dans la vie. Donc, les parents ont envie que leurs enfants réussissent bien à l'école, parce que c'est comme ça qu'ils vont bien réussir dans leur vie. Et du coup, peut-être parfois, le risque, voilà, ça serait que les parents soient dans une attente un peu que leur enfant presque devienne un singe savant.
Ça peut être un des indices. C'est-à-dire que là encore, si on précipite le mouvement et si on n'est pas attentif au rythme de l'enfant ou à ses dispositions singulières et que on le presse, ces difficultés peuvent l'être. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, on met l'accent sur le développement cognitif et mental et que parfois, dans cette obsession du résultat et des acquisitions intellectuelles trop précoces, là encore, l'enfant, quand il a des dispositions, va s'y soumettre. Il peut devenir un singe savant, mais il ne va pas forcément devenir un petit être humain harmonieux. Parce qu'il va faire plaisir, parce que c'est comme ça qu'il est gratifié, qu'il pense qu'il est aimé. Donc, s'il est bien équipé, il va être brillant. Mais c'est comme, je pense, aux sportifs de haut niveau, si vous voulez. Si on les brûle trop, en les entraînant trop, et tout le temps au-dessus de leurs capacités, ils peuvent être sous-développés dans d'autres domaines. Souvent, une hyper-intellectualisation peut aller de pair avec une immaturité affective. C'est-à-dire on devient l'objet des parents qui va les gratifier parce qu'il est intelligent. Et l'école joue un peu ce jeu, c'est comme si les parents attendaient décerner un brevet d'intelligence. Mais on n'est pas forcément intelligent parce qu'on sait énormément de choses, on est intelligent parce qu'on est un être capable de faire des liens entre les choses. Et que c'est aussi quand on est dans un développement affectif, physique, social important. Donc ça peut être une hypertrophie qui peut être dommageable ultérieurement au développement de l'enfant. Donc voilà, évitons de manger des bonnes notes comme étant les seuls signes de l'intelligence.
Oui, là c'est vraiment important pour les parents d'être attentifs à tout le reste, en mais dehors oui. de la scolarité, et de valoriser aussi
Absolument.
Que l'enfant ne soit pas que valorisé dans ses résultats scolaires, où l'enfant pourrait le percevoir comme la seule manière aussi d'être investi, et finalement de se sentir désinvesti par ses parents dans tous ces autres aspects de sa personnalité.
On demande un peu beaucoup trop à l'école. C'est-à-dire, elle devient brevet d'intelligence, brevet de normalité psychique et physique. Donc, et l'école n'est pas vraiment équipée. Donc, elle s'entoure aussi de spécialistes. Mais c'est aussi une forme de dessaisissement de l'éducation qui était censée quand même être de l'enfant, qui est censée quand même être l'apanage des parents. Et je pense que l'école n'est pas forcément prête. Elle n'a pas les compétences. Enfin, en tout cas, les enseignants n'ont pas cette multicompétence. Ils n'ont pas forcément les moyens, c'est-à-dire que quand on met 30 enfants, même dans les petites classes, même à deux, on n'a pas le temps ni les moyens de suivre chacun. Donc effectivement, c'est un peu la difficulté à l'heure actuelle. On demande énormément sur le plan du développement cognitif, mais sur le plan de l'épanouissement dans ces âges-là, en tout cas avant l'école primaire, il faut être quand même très attentif à ne pas trop surinvestir l'école, parce qu'on va du coup la critiquer en permanence ou être en bisbille ou vouloir intervenir. Voilà, il y a des espaces à respecter pour que l'enfant puisse se sentir dans des espaces différents, se développer et pas être l'école bis à la maison ou que à l'école on s'inquiète trop de sa santé ou de sa...
Bon, là, on arrive dans la dernière étape du développement de l'enfant, qui est l'adolescence, hein, l'entrée dans l'adolescence par la puberté, c'est-à-dire l'acquisition et le développement des caractères sexuels secondaires. On a parlé du processus d'adolescence dans un épisode de parentalité. En tout cas, voilà, par rapport à tout ce que vous nous avez dit, Elisabeth, voilà, on entend bien que les signaux, les signes d'alerte pour les parents, vont être lorsque l'enfant a des difficultés à trouver sa place à l'école, à la maison, les difficultés dans les apprentissages, à investir l'école, à s'intéresser, les difficultés à sortir de la petite enfance, à sortir du jeu, à se positionner comme un grand, une trop grande intolérance à la frustration, les difficultés à sortir de la toute-puissance, l'enfant qui serait trop en retrait, renfermé, inhibé ou à l'inverse trop explosif, et puis tout ce qui va être perçu comme des comportements inhabituels ou caricaturaux chez les parents vont être des signes d'appel ou d'alerte qui peuvent amener à consulter des spécialistes, qui peuvent être le signe que le développement de l'enfant est perturbé, parfois de manière transitoire, donc parfois quelques consultations permettent aux parents de décoder, d'être rassurés aussi, aller consulter quand le parent est inquiet, de s'entendre dire aussi que tout va bien et que tout est normal, ça peut faire du bien, faut pas s'en priver.
C'est normal.
Tout au long de ces deux épisodes, Elisabeth, on a bien pu voir que le développement de l'enfant se fait par étapes, que chaque étape peut amener des mouvements de régression, que les choses ne sont pas toujours linéaires, que chaque étape va se faire au rythme de l'enfant, dans sa singularité. Tout ça va pouvoir se développer dans un environnement bienveillant, sécurisant, qui est essentiel pour l'enfant. Merci beaucoup, Elisabeth. Alors, dans le premier épisode, on a donné plusieurs références bibliographiques. Ce qu'on pourrait ajouter pour cet épisode, est sorti récemment l'intégrale des émissions de radio de Françoise Dolto, Lorsque l'enfant paraît. Voilà, c'est à écouter. Et puis, c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup d'exemples cliniques qui nous donnent beaucoup à penser. Merci beaucoup, Elisabeth, d'avoir une fois de plus partagé avec nous votre expérience et vos conseils. Je rappelle que vous êtes psychanalyste dans le 3e arrondissement à Paris.
Merci Mathilde pour ce temps partagé.
Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante podcastparentalité@gmail.com. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter et on se retrouve dans un prochain épisode.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.